Forum Opéra. Émission spéciale.
Et une édition spéciale avec la mezzo-soprano Karine Day. Bonjour Karine Day.
Bonjour.
Alors on est dans le lobby d'un hôtel, dans le bar d'un hôtel chic même. Vous êtes à Bruxelles, vous chantez Dialogue des Carmélites. Mère Marie dans la mise en scène d'Olivier Pie avec Alain Altinoglou à la baguette. Être chanteur, c'est toujours s'engager à l'avance. On prend des engagements 2, 3, 4 saisons à l'avance. On se projette sans arrêt au sens propre comme au sens figuré parce que c'est se projeter vocalement. Cela étant, quand vous arrêtez un instant et que vous pensez en arrière, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ?
C'est toujours en fait de faire des paris. En fait, on fait des paris, effectivement, de savoir comment va évoluer la voix. J'ai rarement pris des risques, en fait, je dirais, parce que j'ai toujours été très bien conseillée. J'ai toujours dit que je choisissais mes rôles et je m'engageais vis-à-vis des maisons d'opéra une fois que mon professeur de chant et mon agent avaient le même avis que moi. Et dans ces cas-là, c'est vrai qu'on est moins amené à faire de bêtises, vous voyez. Parce qu'effectivement, on se dit, voilà, dans 4 ans, est-ce que je suis capable de chanter tel rôle, comment on va évaluer ma voix, est-ce qu'elle va aller vers l'aigu, est-ce qu'elle va aller vers le grave, est-ce qu'elle va se développer suffisamment si l'orchestre est plus conséquent que les ouvrages que l'on a fait auparavant. Donc c'est vrai que c'est un métier, comme vous disiez, où il y a... Il y a des paris, en fait, c'est vraiment des paris. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quelquefois, certains chanteurs annulent, même à la dernière minute, parce qu'ils étaient capables de chanter le rôle 4 ans avant et que la voix ayant évolué, après, voilà, ils sont moins à même à rendre justice au rôle.
Dans le fait de faire un pari, évidemment, il y a la possibilité de le réussir, mais aussi de le rater. Vous en avez connu, vous, des échecs à vos propres yeux dans votre carrière, des moments où vous vous êtes dit « Ouh, ça, j'aurais peut-être pas dû le faire ».
Alors, je touche du bois, vous voyez, je touche du bois, et ma tête avec, voilà. Non, jusqu'à présent, je me suis pas trompée par rapport au rôle, par rapport aux tessitures. Après, effectivement, on se sent plus ou moins à l'aise dans un rôle, ne serait-ce qu'aussi par rapport à une mise en scène, par rapport à une équipe, ça c'est sûr. Mais pour ce qui est du choix des rôles, j'ai toujours fait au bon moment. Je repense notamment au rôle de Carmen, où je m'étais dit de ne pas le faire avant la quarantaine, vous voyez. Et ça a été vraiment une sage décision. En fait, à chaque fois, je programmais par rapport aussi à mon âge, par rapport à la maturité vocale, et en observant également le parcours de nos aînés, parce que ça aussi, ça nous montre aussi beaucoup de choses.
Alors, si Carmen allait avec la quarantaine, est-ce que vous identifiez des rôles qui allaient avec certaines périodes de votre vie, y compris des rôles que vous avez décidé de plus aborder ?
Oui, par exemple, le rôle de chérubin, vous voyez. Ça, c'est des rôles super pour commencer, parce que voilà, on doit faire un jeune adolescent, et c'est très bien écrit, c'est même d'ailleurs assez court. C'est vrai que sur les 4 heures d'opéra, chérubin, il doit chanter une demi-heure en tout.
Et il vole la vedette.
Et il vole la vedette, alors donc c'est génial à faire. Je pense aussi à des rôles comme Stefano, comme à Siebel, il y a juste un air, quelques ensembles. La deuxième partie de l'opéra, on n'existe plus. Donc en fait, c'est des rôles vraiment très très bien pour débuter, je trouve, pour les jeunes chanteurs. Et effectivement, une fois qu'on l'a fait une quinzaine d'années, je pense que c'est bien de passer à autre chose, vous voyez, et puis de passer le relais aussi.
Aujourd'hui, avec les captations haute définition, les caméras omniprésentes, il y a des chanteuses qui disent, même des chanteurs, bien que les chanteurs sont généralement plus coquets et sûrs d'eux, qui n'aborderont plus des rôles de jeunes filles. Or, quand on pense à l'histoire du théâtre, on sait que Sarah Bernhardt a créé le rôle de l'aiglon à un âge plus que canonique, avec une jambe de bois. Aujourd'hui, cette conscience de l'âge est plus présente qu'avant.
Elle est présente, mais en même temps, il y a aussi des exemples autour de nous. Moi, je pense à des chanteuses comme Gruberova, comme Devia, qui sont toujours capables de chanter une Lucia, une Norma. Voilà, elles ont 69, 70 ans. Et c'est spectaculaire. Enfin, moi, je suis estomaquée de voir ça. Alors, évidemment, si c'est filmé, là, on va se dire, elles n'ont peut-être plus vraiment l'âge du rôle. Mais tant qu'on a la voix, tant qu'on a la santé vocale, et puis oui, cette technique, cette musicalité, ce savoir-faire, continuons.
Vous avez touché du bois tout à l'heure. Et c'est vrai que quand on rencontre les chanteurs, il y a deux extrêmes. Il y a d'un côté les chanteurs qui peuvent passer des soirées épouvantables et être ravis de leurs prestations. D'un autre côté, des chanteurs qui peuvent chanter magnifiquement et être sans cesse insatisfaits. Vous vous situez où dans cette échelle délicate ?
Alors, c'est vrai qu'on se, on ne peut pas vraiment se rendre compte sur scène si, si la performance a, a été voilà, bonne, moins bonne. Enfin, c'est toujours difficile, hein, mais puis on ne se rend pas compte de notre impact vocal en plus dans, dans la salle, notre façon de jouer. On n'a pas un miroir en face de nous toute la soirée. Notre miroir, c'est le metteur en scène pendant les répétitions, mais après, voilà, il n'est plus là pour nous guider. Moi, je dirais que je suis satisfaite quand je fais un sans faute au niveau de la partition. Vous voyez, voilà. Si j'ai fait parfaitement
c'est
mon rythme.
Pas mal,
non, mais en tout cas, ça, c'est mon exigence de musicienne, d'instrumentiste, d'ailleurs, à la base. Je ne veux pas me tromper dans mon rythme, je ne veux pas me tromper dans, dans les paroles. Enfin, et ça, déjà, pour moi, je me dis, ah, bah, ce soir, ça, j'ai réussi, je suis contente. Après, voilà, l'impact que l'on a vis-à-vis du public, c'est toujours délicat. On est rarement satisfait tout le temps. Enfin, moi, je vous le dis, je suis satisfaite dans le sens où j'ai respecté la partition. Après, je me dis, mais ça, je pourrais faire mieux. Et ça commence. Enfin, je suis toujours à la recherche de. Ouais, ça, je fais peut-être plutôt partie de cette partie, en tout cas, de chanteur qui. Pas, je ne dirais pas insatisfaite, mais toujours à la recherche d'une perfection. C'est vrai.
Les publics sont jamais pareils. Vous pouvez chanter de la même manière un soir comme l'autre et puis avoir un public qui tout d'un coup se met à applaudir de manière déchaînée, puis le lendemain vous jouez pour des banquiers et vous entendriez une mouche voler après votre air. Est-ce que c'est pas déstabilisant ça ?
Ça peut l'être, mais effectivement, on le sait que les publics sont différents, tout comme ils sont différents selon les pays aussi, hein, ou même les régions en France. Il y a des publics qui sont très très démonstratifs et puis d'autres qui sont plus réservés. Mais quand on discute ensuite avec eux, on se rend compte que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas applaudi et hurlé bravo autant que d'autres qui n'ont pas été touchés par la prestation du soir. Donc en fait, on le sait, voilà. Et c'est vrai qu'en plus, selon les ouvrages, là j'allais dire, quand on sort du, par exemple des dialogues, c'est difficile de hurler bravo une fois qu'on vient de pleurer pendant tout le Salve Regina, vous voyez. Donc ça...
Et justement, dans cette production de La Monnaie, j'ai été un peu choqué d'entendre des applaudissements tomber quasiment sur la dernière mesure. Est-ce que l'émotion, quelque part, ne doit pas là s'exprimer dans une certaine manière, dans le silence ?
Exactement, et j'ai l'impression que selon les soirs, ça, les applaudissements ont été aussi un petit peu plus tard aussi. Ça dépend en fait. C'est vrai que ça dépend de ce qu'on reçoit. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, cette musique-là, tous les soirs, me fait vraiment pleurer. Je ne peux pas dire que je ne connais pas l'histoire, hein, vous voyez. Donc je devrais le savoir, mais non, il y a une force. Il y a une force dans cette musique incroyable.
Dans votre sac, derrière vous, il y a une partition qui vous omnubile un peu pour l'instant.
Alors, déjà, elle est lourde. Ça, il faut le dire. Je ne remercie pas les éditions Ricordi d'avoir édité tous les opéras de Rossini quasiment en deux volumes, vous voyez. Parce qu'il y a tous les appendices et les notes en fin de...
C'est l'œuvre des regrettés Alberto Zeda et
Exactement.
Philippe
Exactement. Alors, c'est vrai qu'ils nous mettent plein de notes d'interprétation. Et ça, c'est génial. C'est vrai que là, on n'a pas besoin d'aller chercher dans un autre livre. Mais je peux vous dire que quand on se balade avec ça, il y a un poids. Hein. Donc on risque pas de l'oublier, en tout cas, ça c'est sûr.
On peut peut-être révéler ce que c'est.
Alors c'est la partition de Semiramide, voilà, que je prépare. C'est le prochain rôle que je ferai début mars à l'Opéra de Saint-Étienne. Et voilà, c'est mon prochain challenge rossinien. Et je suis très contente d'en avoir quasiment tous les ans, indifférent.
C'est un monument vocal, Semiramide, c'est aussi un monument par sa simple partition. Ça dure près de 5 heures dans la version intégrale. Vous rentrez dans un ensemble avec une basse vocalisante, un ténor vocalisant, une déferlante de vocalises. Mais quand on rentre en scène dans Semiramide, on a aussi, j'imagine, l'impression de commencer un marathon.
Oui, mais alors, j'ai envie de vous dire qu'en fonction de ce qu'on a pu aborder en amont, on est déjà entraîné, on peut l'être en tout cas, parce que la saison dernière, en ayant abordé le rôle d'Armida, qui est à mon avis même encore plus long et plus vocalisant, ça je peux vous le dire.
Ou là aussi, vous rentrez dans un ensemble.
Ah mais là, c'est incroyable. On rentre au bout d'un quart d'heure, parce que c'est les garçons qui commencent l'ouvrage. Après, comme je suis la seule fille, après c'est une heure et quart de suite, et presque une heure encore derrière, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des marathons. On pense toujours à Wagner pour les rôles longs, mais Rossini a fait des beaux cadeaux aussi, ça je peux vous le dire. Ou alors, comme une Alceste aussi, vous voyez, de Gluck. Alceste, elle est là tout le temps. Elle a 9 airs quand même. C'est, quand on les compte, ça commence à faire. Mais en tout cas, voilà, on est en scène, on vit le personnage. Il y a des choses musicales qui sont tellement fortes. Et puis voilà, et pareil, le contact avec les partenaires, la force d'une mise en scène. Donc c'est des marathons, mais des marathons de plaisir aussi.
L'endurance, c'est quelque chose qui s'apprend ?
Je pense, oui, je pense, ça c'est une évidence. C'est pour ça qu'au départ, quand on est jeune, je disais tout à l'heure, de commencer par des rôles moins longs, évidemment, dans les exemples que l'on a donné, que je peux donner comme Chérubin, voilà, Stefano, Siebel, c'est beaucoup plus facile de commencer avec ce genre de rôle. Et puis, avec le temps, on fait des rôles de plus en plus longs, ça c'est sûr.
On est jeune jusqu'à quel âge, à votre avis ?
Oh là là, c'est une question difficile, ça.
Non, mais parce que vous dites quand on est jeune, et moi, je serais tenté de vous opposer que vous l'êtes toujours.
Non, bien sûr, mais quand on est jeune, c'est-à-dire quand on sort du conservatoire, quand on sort d'un cycle d'études, qu'on n'a justement aucune expérience et qu'on doit la faire sur le terrain, mais comme tous les métiers, j'ai envie de vous dire, c'est comme tous les métiers. On a un apprentissage, on a un acquis, mais après, il faut de l'expérience. Moi, évidemment, j'ai eu la chance d'aller en troupe parce qu'il y avait encore la troupe en France, la troupe de Lyon, et que pendant 4 ans, je me suis entraînée, voilà, oui, à chanter 6 jours sur 7, malade, fatiguée, à enchaîner des répétitions d'une production en préparant le rôle d'après, en préparant des récitals, en voyant des coachs tous les jours de la semaine. Enfin, oui, ça, c'est vrai que c'est une préparation. Et d'avoir fait ça au même endroit pendant 4 ans, j'avoue que ça m'a énormément préparée pour mon métier, c'est une évidence.
L'autre jour, Véronique Jans disait, je cite, « Quand on est chanteur, c'est une vie de privation, on ne peut pas boire, on ne peut pas fumer, on ne peut pas sortir jusqu'à pas d'heure. » Et quand je vois des jeunes collègues qui parviennent à sortir en boîte et puis chanter le lendemain, j'ai envie de leur dire « Un jour, vous comprendrez que Mamie Véronique avait raison. » Alors, le Mamie Véronique, je précise, c'est une citation. Vous êtes d'accord avec elle ?
J'ai envie de dire que on doit être prudent, évidemment, en fonction des rôles que l'on aborde, en fonction des enjeux. Mais il est vrai que quand on est jeune, on a une meilleure résistance, on a une meilleure capacité de récupération. Je mentirais en disant que quand j'étais en troupe à Lyon, je n'ai pas fait de nuit blanche, vous voyez ?
Ah oui ?
Voilà, et ça ne s'entendait pas. Donc, ça dépend des gens, en plus. Voilà, il y a des gens qui ont une capacité à récupérer très vite, d'autres moins. Il y en a qui ont besoin de peu de sommeil, d'autres plus. Mais ça, c'est pour aussi tous les métiers.
Vous êtes quel style, vous, alors ?
Moi, je suis du style à récupérer assez vite parce que j'ai un sommeil très profond et je ne me réveille jamais la nuit. Et la chance que j'ai, c'est que quand je me couche à n'importe quelle heure, donc on va dire, je ne sais pas, minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, je dors 8 heures de suite. Voilà.
C'est quoi votre secret ?
Ben, j'ai cette chance, je suis constituée comme ça, je suis comme ça depuis petite. Et puis, pareil, avec le métier que l'on a, où on voyage énormément, où il y a les décalages horaires, j'arrive dans un avion, je dors, dans une voiture, je dors, dans le train, je dors n'importe où, moi. Assise, vous voyez donc.
Enfin, vous devriez donner des masterclass de sommeil.
Mais pourquoi pas, ce serait une bonne idée. Mais c'est vrai que ça, c'est une chance de
récupérer.
Ceci
dit, sans rire, le sommeil, ça fait partie intégrante de la vie de chanteur.
Mais évidemment, parce que c'est là où la voix, je suis désolée, elle récupère avec le sommeil. Alors, ne pas boire, je mentirais aussi, parce que après les spectacles, moi, je fête. Hein,
là, vous êtes au cappuccino, par contre.
Là, je suis au cappuccino, mais
il n'y a pas de scotch dans votre cappuccino.
Non, je vous rassure. Alors, je ne suis pas alcool fort. Hein. Mais moi, ça ne m'empêche pas de vivre la vie de chanteur, je vous assure. Je suis déjà une couche tard, moi, donc je vais me coucher tard. Je ne vais pas au lit à 9h. Je fête volontiers avec mes amis, ma famille. Alors, pas à l'excès, mais je peux prendre une coupe, vous voyez, de champagne, un verre de vin, même si le lendemain, je chante. Hein, c'est pas... je ne fume pas, ça par contre, c'est sûr. Et j'évite par contre la veille les endroits trop bruyants qui feront que voilà, on sera obligé de forcer la voix pour s'exprimer. Mais à part ça, non, moi j'ai l'impression d'avoir une vie normale. Et Dieu merci, sinon je ne ferais pas ce métier.
J'ai l'impression d'avoir croisé certains de vos collègues qui menaient une vie de contrainte. Alors on ne va pas aller jusqu'à dire qu'ils menaient une vie de carmélite, mais par exemple, le jour d'une représentation, ils avaient une routine, comme ils essayaient d'éviter de parler, certainement pas chanter jusqu'au moment où on chauffe la voix. Quelle est votre routine à vous ?
Moi, ma routine, c'est que je n'irai pas, par exemple, visiter un musée le jour d'une représentation, parce que ça, même si on ne parle pas, c'est fatigant. Voilà. Je vais me concentrer dans la journée sur ma partition. J'aime bien relire une fois. Je ne vais pas forcément beaucoup chauffer. Je chauffe qu'au théâtre. Je me rassure juste le matin en faisant une petite bouche fermée. Puis si ça va, ça va.
C'est quoi ça exactement ?
La petite bouche fermée, oui. C'est que peut-être une demi-heure, une heure après le réveil, je vais faire... Et voilà, je me dis, la voix, elle est là et pas de stress.
Qu'est-ce qui se passe quand le
quand son, la voix n'est pas là?
Quand le son ne sort pas?
Ah ben là, c'est qu'on est un petit peu malade quand même, en général.
Mais on ne le sent pas indépendamment de la bouche fermée?
Bah non, tant qu'on n'a pas ouvert la bouche, non.
Donc parfois, on le découvre en faisant ça.
Ah oui, mais oui,
parce que... Il y a un côté un peu Hitchcockien là-dedans.
Mais oui, parce que ça nous est, hélas, déjà arrivé de se réveiller le matin à faune et sans avoir mal à la gorge. Alors évidemment, s'il y a un mal à la gorge en prémisse, on est un peu inquiet, mais... Moi, ça m'est déjà arrivé de me réveiller à faune sans avoir mal à la gorge. Donc...
Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, dans la tête de Karine Day?
Alors, si on a un spectacle le jour même, je peux vous dire que c'est l'horreur. C'est-à-dire qu'on appelle...
C'est comme dans Vice Versa de Pixar, on a plein de personnages dans la tête
qui
courent dans tous les sens.
Bien sûr, encore plus quand c'est un spectacle en après-midi, vous imaginez. Donc, on fonce chez l'ORL le plus proche. En général, on a tous les numéros sur nous. Je peux vous dire que ça devient nos amis, hein, les ORL. Il faut regarder les cordes, il faut savoir si on a un feu vert pour chanter, si les cordes justement ne sont pas enflammées, si elles sont blanches, parce que si c'est enflammé autour et pas les cordes, là on a un feu vert pour chanter, même si c'est pas très agréable. On doit forcément prendre un traitement, ça dépend ce que l'on a évidemment, et c'est incroyable parce que des fois voilà, la voix effectivement peut revenir dans la journée, mais c'est un gros stress. Non, ça c'est pas vraiment ce qu'on préfère, c'est une évidence, mais la technique on l'apprend aussi. On l'acquiert pour qu'elle soit là justement dans les moments où on est fatigué, malade, et elle prend le relais. Donc,
Alors, il y a quelque chose dont on parle peu dans le métier de chanteur, mais qui est une réalité, c'est que quand on se sent un peu fragilisé, certains médecins proposent une injection de cortisone avant de monter en scène. Est-ce que... Alors, il y a des chanteurs qui disent ça en aucun cas, d'autres qui mettent l'église au milieu du village et qui disent, si c'est vraiment nécessaire, je le fais. Et puis d'autres, au contraire, qui malheureusement tombent dans l'excès. Vous avez une philosophie par rapport à ça?
Oui, moi je dis jamais de piqûre. Moi, j'ai jamais dit oui à une piqûre. Je dirais tout simplement que j'ai vu des collègues faire ça. Alors c'est vrai que c'est spectaculaire, ils assurent le spectacle hein, le soir même, mais on les voit plus après pendant une semaine parce que c'est tellement fort en injection que ils peuvent forcer sans s'en rendre compte, en fait, comme c'est un anti-inflammatoire puissant. Donc moi je préfère si besoin voilà prendre des comprimés. On évite au maximum parce que de toute façon ça raidit les cordes, elles ne sont pas souples, c'est vraiment pas très agréable de chanter avec ça. Le mieux, ce sera en aérosol parce que c'est local. Après, évidemment, il faut 3-4 jours pour que ça fasse effet, vraiment, en tout cas, que ça nous soigne. Donc oui, c'est compliqué, mais après, voilà, chacun a sa liberté, son choix. J'ai envie de vous dire, c'est comme les sportifs, hein, vous voyez, au niveau du dopage. Hein,
ça finit rarement bien, ça.
Bah voilà, donc il faut faire attention voilà, aux conséquences, en tout cas, mais chacun est libre.
Vous avez été le témoin de choses qui vous ont... choqué dans votre carrière, des actes, vous vous êtes dit, oula, Sam, moi, j'ai pas envie de tomber là-dedans?
Pas forcément. Non, non, non. Après, c'est ça, c'est comme vous disiez, ça peut être un engrenage si des gens se disent, bah tiens, j'ai bien chanté avec ça ou j'ai mieux chanté avec ça. Ça peut faire peur, ça, je pense. Parce qu'après, il y aura une dépendance, mais sinon, non.
Il y a aussi des questions d'attitude chez certains chanteurs, chez certains chefs aussi. On l'a vu chez certains metteurs en scène, des attitudes qu'on n'a pas spécialement envie de faire siennes.
Oui, alors ça, on se dit qu'avec certains chefs et metteurs en scène, que ça va durer qu'une seule production.
C'est donc, long, une production.
Oui, mais on fait un effort. Il y a des gens qui sont dans une entreprise et c'est encore plus long que nous, vous voyez. Donc, nous, si c'est juste 6 semaines ou en tout cas même le temps des répétitions, on prend beaucoup sur nous aussi, bien sûr, c'est évident. Il ne faut pas en tout cas perdre le plaisir de chanter.
À chaque fois que je vous rencontre, je me dis, je me trompe peut-être, que vous avez les pieds sur terre dans des proportions assez incroyables et admirables même. Il n'y a pas grand-chose en fait qui vous fait sortir de votre cap.
Alors ça, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour, ça va sortir, on ne sait pas. Mais non, non, moi, à chaque fois, je me dis aussi que j'ai beaucoup de chance parce que je suis quand même rarement tombée sur des productions où je n'étais pas heureuse. Quoi, voilà. Ça a dû arriver une ou deux fois. Alors, je veux dire, en 20 ans de carrière, je ne vais pas me plaindre.
Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là?
Il y a une fois, je suis partie.
Ah oui.
Ben oui, quand c'est pas possible, c'est pas possible. Quand on peut pas s'entendre, on peut pas s'entendre. Quand il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange. Et si on va au travail malheureux, c'est pas le but, quoi. Donc c'est déjà arrivé.
Quel est le processus qui mène à cette décision? J'imagine que ça se décide pas en une heure.
Non, on essaye de discuter et il n'y a pas de dialogue, voilà. Il n'y a pas de communication possible. Donc si c'est difficile pour soi-même et si c'est difficile pour l'autre personne, autant arrêter. Il ne faut pas que ce soit une souffrance, hein. Enfin, moi, je pense.
Robin Ticciati, le directeur musical de Glyndebourne, me disait qu'un jour, il avait claqué la porte d'une maison d'opéra précisément parce qu'il était malheureux dans une production, ne se ressentait absolument pas, et que la pression du métier avait été telle sur ses épaules qu'il avait dû rester plusieurs jours cloîtré chez lui dans une forme de méforme psychologique terrible, ce qui prouve que même sur les chefs importants, il y a une pression terrible qui repose sur leurs épaules.
Non, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'après, même quand on prend ce genre de décision, on est malheureux, c'est une évidence. Mais après, voilà, il y a toujours des choses positives qui peuvent arriver derrière. C'est une philosophie de la vie aussi. Je me dis toujours, il y a un bien pour un mal, quoi. Enfin, un mal pour un bien, plutôt, d'ailleurs, mon Dieu. J'ai dit le contraire. Oui.
Psychanalytiquement, c'est intéressant.
C'est intéressant. C'est parce que je suis au Carmel en ce moment, vous voyez, donc...
Justement, vous parlez de philosophie. Vous avez une philosophie de vie évidente et simple à expliquer ?
Moi, je me dirais déjà qu'il faut profiter de la vie avec tout ce qui se passe autour de nous, encore plus maintenant, j'ai envie de vous dire.
Pourquoi ?
Mais parce que avec tout ce qui se passe autour de nous, la souffrance, la pauvreté, le malheur, enfin, je veux dire, puis maintenant vraiment à notre porte, hein, c'est une réalité. Il y a quand même des gens qui n'arrivent pas à manger tous les jours à leur faim. Enfin, dans nos pays civilisés, c'est quand même hallucinant. Je me dis, mais quelle chance de vivre de ma passion et de vivre, voilà, déjà de pas me dire comme certains qu'est-ce que je vais manger ce soir, comment je vais arrondir mes fins de mois. Voilà, c'est déjà une grande chance et voilà, il faut vraiment avoir conscience de la chance que l'on a.
Dans ce contexte-là et dans cette configuration d'esprit-là, j'imagine que chanter une œuvre comme Dialogue des Carmélites, c'est pas anodin, parce qu'on est confronté à la fois à l'incroyable brutalité du monde, à l'arbitraire du monde et de l'être humain, et puis à ce que l'être humain peut avoir de plus profond et de plus raisonnable.
Oui, parce qu'en fait, on se dit que... ce qui est terrible, d'ailleurs, même dans ce texte-là de Bernanos, qui retrace la terreur pendant la Révolution, on se dit que ça n'a pas vraiment beaucoup évolué. Enfin, moi, ça me choque, d'ailleurs, quand Constance dit « N'y a-t-il pas de bons Français pour prendre la défense de nos prêtres ?» On peut se dire la même chose pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les Juifs. Je veux dire, les Juifs disaient la même chose. Ils disaient, mais on est en France, il ne peut rien nous arriver. Et non, ils ont été dénoncés aussi. Enfin, c'est terrible. Là, c'était des dénonciations. Et de se dire, voilà, en fait, l'histoire peut se reproduire alors que ça doit être des exemples pour nous. Et surtout, de se dire que les gens qui ont fait la Révolution, et notamment cette période de la terreur là, qui a duré un an et demi, ça devait être l'horreur. Enfin, j'imagine même pas, du moment qu'on était croyant ou du moment qu'on était aristocrate, forcément on était des méchants. C'est de se dire que dans le Carmel, la Révolution avait déjà eu lieu. Les filles rentrent au Carmel, qu'elles soient aristocrates ou paysannes, elles ont le même statut. Et d'ailleurs, la preuve, Lidoine, qui vient du peuple, va dépasser Mère Marie, qui est aristocrate, pour avoir le poste de la première prieure. Donc la Révolution, elle a déjà eu lieu, en fait, dans l'église et dans le Carmel. Et à l'extérieur, ils n'ont pas vu ça, en fait. Donc c'est ça qui est terrible, en fait. Et c'est pour ça que les filles vont si courageusement à l'échafaud, voilà, en chantant et en affirmant leur foi. Enfin, moi, ça me bouleverse.
On a l'impression, en voyant cette pièce, que l'humanité est comme cet oiseau qui se prend une première fois la tête dans une vitre, qui repart et puis qui se reprend la même vitre, et encore, et encore, et encore.
Oui, malheureusement. C'est vrai qu'à chaque fois, on se dit qu'il faut tirer des leçons de l'histoire. Et non, en fait, on n'en tire pas. Parce qu'il y a malheureusement toujours des gens qui ne pensent qu'à eux, quoi. Il suffit d'allumer la télé, hein, on a plein d'exemples en ce moment. Et qui ne pensent pas aux autres, quoi. C'est cet esprit, justement, de communauté, de partage. En plus, maintenant, c'est l'époque des fêtes. Donc, je crois que c'est important. C'est important. Il y a un vrai message, en plus, moi, je trouve, dans cette œuvre.
Dans votre métier, il y a un mot-clé, je trouve, c'est la communion. Cette capacité à célébrer quelque chose tous ensemble. Alors vous, c'est autour d'une œuvre d'art, autour de votre talent aussi. J'imagine que quand on chante Dialogue des Carmélites, on a quand même l'impression, qu'on soit religieux ou pas, de partager certaines valeurs avec les gens qui sont dans la salle.
Oui, c'est vrai. Et puis nous, encore plus aussi sur scène, quand on est justement tout ensemble et tout habillé pareil. Enfin, il y a une égalité, quoi, fraternité. Et c'est vrai que ça peut justement se voir et puis oui, se partager avec le public, ça c'est sûr.
Toutes ces femmes victimisées dans cette pièce de Bernanos reprise par Poulenc, qui sont des religieuses, on serait tenté de faire un parallélisme aussi avec la vie de chanteuse. Vous êtes non pas cloîtrée, mais en production tout ensemble. Vous vivez ensemble pendant une période déterminée. J'imagine que ce parallélisme, il vous trotte un peu dans la tête.
Oui, on pourrait dire ça, c'est vrai. Mais en tout cas, c'est beaucoup moins austère, hein, je vous rassure, notre vie. Hein. on ne va pas forcément aller prier tout ensemble, mais on va aller au restaurant tous ensemble. Voilà, on va boire un verre, on va partager. En fait, moi, j'ai toujours comparé les productions de bar aux colonies, vous voyez, parce que quand j'étais petite, j'allais en colonie. Et j'ai l'impression que c'est ça, voilà, on est en colonie, donc on est ensemble pendant un certain temps. Après, on va forcément sur des routes différentes. Puis après, quand on se retrouve, on a l'impression de cette vue, ouais, la veille ou peut-être la semaine d'avant, il y a des vrais liens, en tout cas, qui se créent. Et c'est ce qui me plaît aussi dans le métier.
Mais une production des dialogues, surtout une double production, donc avec deux fois le nombre de chanteurs, c'est un peu un gynécée, ce moment dans la vie d'un chanteur où les chanteuses sont entre elles. Est-ce que ça apporte une certaine douceur, ça ?
Oui, et puis en plus, il y a eu une très très bonne ambiance pendant toutes les répétitions. On était interchangeables, on a pu répéter avec l'autre cast. Enfin, moi, j'ai vraiment senti une... Ouais, comme si on était une famille. Enfin, en plus, la chance aussi de retrouver des copines du conservatoire, il faut le dire, parce que moi, j'étais au conservatoire avec Sophie Coche, avec Patricia Petitbon, même avec Alain Altinoglou, hein, qui nous dirige. On était au conservatoire tous ensemble. Donc, c'est des retrouvailles, en fait, à chaque fois. Et ça donne une bonne humeur de travail.
Mais précisément, c'est assez admirable quand on voit cette production à plus ou moins 10 années près, le nombre de chanteurs français qui sont parvenus à éclore, à faire carrière durablement dans différents répertoires, sont ici présentés sur la même scène. Il y a vraiment une génération dorée du chant français.
Oui, moi je trouve, et puis d'ailleurs elle se perpétue, parce que là la jeune génération aussi nous montre qu'il y a des artistes magnifiques. Donc c'est vrai que moi, je suis fière de cette école française. J'ai d'ailleurs aussi été voir le récital de Stéphane Degout vendredi dernier à La Monnaie. Et je me disais, waouh, quel chanteur, quelle musicalité, quelle technique, quelle classe. Et voilà, je suis fière aussi de mes collègues.
Stéphane Degout, précisément, comme vous, sort de l'Opéra Studio de l'Opéra de Lyon, où il a fait ses classes et il en parle très régulièrement. Ça nous renvoie évidemment au débat des troupes. Michel Sénéchal avait, il y a quelques années, avec Gabriel Baquier, regretté la disparition des troupes. Il en existe encore certaines, mais c'est vrai qu'à l'échelle nationale, elles ont un peu perdu de leur éclat et de leur bienfait.
C'est surtout qu'il n'y a plus de troupes maintenant. Il n'y a que des opéras studios.
C'est ça.
Alors qu'à Lyon, à l'époque, il y avait... alors on appelait ça l'atelier, donc atelier opéra studio, mais il y avait vraiment la troupe à côté. Et c'était la grande époque où on était quand même une quarantaine de chanteurs vraiment à travailler comme à la maison, quoi. Enfin, c'était pour l'apprentissage, pour les jeunes en tout cas, quand ils sortent du conservatoire, je trouve que ça manque effectivement.
Par voilà. Contre, quand vous décrivez ce que c'est une troupe, on peut se dire que ça a l'air un peu spartiate comme ça. Quand on voit des troupes en Allemagne, par exemple, où le même ténor doit chanter la même semaine, la bohème, Tosca, oui. Puis Traviata, et que le pauvre type n'a que 25 ans,
oui.
On se dit que d'un côté, c'est formateur, de l'autre côté, ça peut être un peu dangereux.
Ça peut être dangereux quand on voit effectivement le traitement des troupes en Allemagne, même si pour le coup, ça leur donne aussi beaucoup d'expérience et de travail. C'est vrai qu'en France, on a été plus raisonnable, on va dire. Déjà, c'est rare qu'on fasse plusieurs spectacles différents dans la semaine. Nous, c'est pas de toute façon, ça n'est pas comme ça dans notre programmation. Ça marche pas comme ça en France. Il y a peut-être deux spectacles qui se chevauchent, mais il n'y en a pas cinq différents dans la semaine. On ne remonte pas une production en quatre jours, voilà, comme à Vienne, vous voyez, ou comme en Allemagne. Nous, le minimum, c'est deux semaines quand c'est une reprise. Hein. Donc, on a quand même plus de temps. Et on prend peut-être plus soin des jeunes chanteurs, ça c'est vrai. Enfin, on prenait parce que, voilà, pour l'instant, les troupes ne sont pas rétablies. Après, on se dit, si les gens ne veulent pas refaire les troupes, ce serait bien qu'ils fidélisent, je trouve, de jeunes chanteurs en leur donnant voilà, deux rôles par an, trois rôles. D'abord, évidemment, des petits rôles pour se former. On ne peut pas toujours avoir un premier plan tout de suite, ça aussi, il faut l'accepter. Et puis de voir les autres en scène, on apprend énormément, de voir nos aînés. La troupe, ce qui était génial, c'est qu'il y avait les jeunes de la troupe, mais il y avait aussi des chanteurs plus âgés, plus aguerris, qui avaient la cinquantaine. Et voilà, on partageait nos expériences, c'était super.
Comment on se sent quand on est un jeune loup dans un plus petit emploi sur scène et qu'on se dit, mais mon Dieu, je pourrais le chanter, ce rôle principal?
Moi, je ne me suis jamais dit ça. Vraiment. Et puis, je trouve ça bien qu'on fasse ce qu'on appelle des seconds plans. Par exemple, dans la flûte, de faire les dames, c'est extraordinaire. C'est des pages musicales magnifiques.
Et puis, c'est une mécanique infernale à mettre en place.
Mais c'est génial, voilà. Donc, le travail que l'on fait, en plus, avec le chef d'orchestre est super. De faire aussi des rôles dans, je sais pas, on va donner des exemples comme L'enfant et les sortilèges, de faire des opérettes. Enfin, je veux dire, il y a plein de rôles où, même si on n'a pas le premier rôle, mais voilà, on fait un travail extraordinaire.
Est-ce que de troupes, finalement, il n'en existe pas une, celle du Palazzetto Bruzane?
C'est rigolo ce que vous dites. Alors, troupe, je ne sais pas, je dirais même une famille, moi, vous voyez. Non, c'est vrai qu'ils fidélisent beaucoup les chanteurs. On peut dire ça, effectivement, mais on fait rarement des choses en scène, hein, par exemple, voilà.
Qu'est-ce qu'elle vous a appris, cette famille-là?
Elle m'a appris à avoir aussi la curiosité de découvrir des nouveaux répertoires. Après, ce qui est triste, c'est qu'on les fait quelquefois juste un soir ou deux. Alors moi, après, je suis un peu frustrée, je vais vous avouer.
Quel boulot, quand même.
Mais oui, parce qu'avec eux, j'ai fait l'Andromaque de Grétry, j'ai fait l'Herculanum de Félicien David, j'ai fait le Utal de Méhul. En plus, à chaque fois, avec des chefs que j'adore, qui sont Hervé Niquet et Christophe Rousset. Et oui, à chaque fois, on a eu deux concerts, quoi. Et encore, le Utal de Méhul, je crois qu'il n'y a eu qu'un seul concert, vous voyez. Donc, c'est délicat parce qu'on se dit, tout ce travail pour un seul soir. Alors, évidemment, il y a un disque qui nous reste et qui est la trace de notre travail. Mais je trouve ça dommage, par contre, après que, voilà, il n'ait pas eu la possibilité de faire voyager, voilà, chaque opéra, au moins dans une ou deux villes différentes. Voilà.
Et surtout que Herculanum, c'était un investissement vocal qui n'était pas piqué des hannetons. Rôle vocalisant,
oui.
De grande séductrice en plus.
Oui, c'était d'ailleurs, moi j'ai trouvé un livret génial, super.
Oui, on apprend que c'est finalement parce que vous êtes une affreuse tentatrice que le Vésuve a explosé.
Exactement. Non, le livret était super, ça mettait très en valeur le quatuor vocal. On avait vraiment tous les quatre des airs et des duos magnifiques. Donc c'est vrai que ça, moi je trouve que ça mériterait de voyager plus.
Là, évidemment, c'est le répertoire français, mais il y a un autre répertoire qui vous est très cher, c'est le répertoire italien. On a tendance à dire que les Italiens sont chauvins et qu'ils n'aiment pas trop quand des étrangers s'approprient leur répertoire. Vous qui êtes passé à absolument maître dans l'interprétation du bel canto, vous l'avez vécu, ce chauvinisme-là, de la part des Italiens?
Je vais même dire que je le vis encore, si vous me permettez, parce que je n'ai jamais chanté de répertoire italien en Italie, vous voyez ? Jamais. Donc je suis très heureuse, moi, de pouvoir faire mes Rossini, Bellini, Donizetti aux États-Unis, en France, en Belgique, en Espagne. Je suis ravie, hein. Mais pour l'instant, jamais en Italie. Voilà, donc c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus protectionnistes que nous. Et c'est dommage, voilà, moi, c'est ce que je trouve. Parce qu'à chaque fois que je fais du répertoire italien, je vais donner comme exemple, effectivement, l'Armida de Rossini à Montpellier. Il y avait beaucoup d'Italiens, chanteurs, chefs d'orchestre. L'Elvira aussi, version Malibran, des Puritains que j'ai fait cet été au Festival de Montpellier. J'étais la seule Française de la distribution. Et je me dis, nous, en tout cas, on est ouvert, on fait venir tous ces chanteurs géniaux, voilà, en France. Mais il n'y a pas vraiment d'échange, je trouve, dans l'autre sens. Et, Mais je trouve ça dommage. Alors peut-être j'irai faire mes adieux, voyons, en Italie, exprès.
Mais dans très longtemps.
Ah bah j'espère.
Vous en avez déjà parlé à des collègues italiens de ce phénomène ?
Oui, et même eux, à chaque fois, ils disent « Mais comment ça se fait que tu n'es jamais venu en Italie ?» Bah, je dis « Oui, bah, il y a des mystères, il y a des mystères comme ça. » Peut-être un jour, voilà, il y aura une porte qui va s'ouvrir, j'espère en tout cas.
Vous imaginez sur la scène de la Scala, par exemple, interpréter un rôle belcantiste, ça doit à la fois répondre à une certaine notion du rêve, mais aussi mettre une sacrée pression.
Ah bah bien sûr, parce que là, on sait que le public est très difficile et on connaît aussi les cabales. Ça, c'est assez célèbre. Mais par exemple, le festival Rossini de Pesaro, moi, j'aurais adoré y aller. Après, voilà, j'ai pas eu l'occasion de travailler avec Monsieur Zeda, hélas, qui nous a quittés. Donc peut-être ça aurait pu être une porte pour y aller. Mais je me dis, ça fait 20 ans que je fais du Rossini et hélas, je n'ai toujours pas été au festival Rossini. Alors voilà, je me dis, j'irai au moins faire mes adieux.
On a des réponses quand on se pose ce genre de questions dans une carrière. Est-ce qu'un agent peut répondre à ce genre de questions-là ?
C'est délicat en fait. On se dit que pour l'Italie, c'est toujours peut-être mieux d'avoir un agent italien. Alors, moi, je suis d'ailleurs dans une agence italienne aussi, parallèlement à mon agent français. Mais voilà, pour l'instant, j'attends que les portes s'ouvrent. Voilà.
Le jour où elles s'ouvriront, ce sera la fête.
Ah bah, coupette. Ah bah, coupette.
Dans ce cas-là, on peut avoir une coupette.
Voilà, dans ces cas-là, on pourra avoir la coupette. Mais c'est vrai que je me dis, c'est la même chose, par exemple, cet été, d'avoir abordé le rôle d'Elvire dans Les Puritains version Malibran, qui est quasiment jamais faite. Il y a eu un seul concert. Ben voilà, ça, c'est le genre de rôle que j'aimerais le refaire aussi, vous voyez. Donc, on se dit, on le fait, on passe énormément de travail en amont pour monter ce genre de rôle. Et voilà, on a envie que les choses se refassent, forcément.
Vous pensez parfois avec un brin de jalousie à ces chanteurs qui ont 4 ou 5 rôles à leur répertoire et qui les thésaurisent de saison en saison ?
Non, non, ça, je ne jalouse pas parce que j'aime bien aussi la diversité. Et je ne voudrais pas faire une carrière avec juste 5 rôles. Ça, ce ne serait pas possible non plus pour moi. Après, non, le seul regret, voilà, c'est de faire un rôle une seule fois, simplement. Si je le fais déjà 2 fois, moi, je suis contente, hein, vous voyez. Après, il y en a d'autres que j'ai fait beaucoup plus. Mais non, non, moi, je trouve ça au contraire très important de passer d'un style à l'autre, d'une époque à une autre. On parle de rôle d'opéra, mais je fais aussi toujours les concerts de musique de chambre que j'affectionne énormément, des récitals, des concerts avec orchestre aussi, où il y a encore un autre répertoire. Donc, ce serait pas... Non, je crois que ce genre de carrière ne m'irait pas, moi, en tout cas. Ça, il me manquerait quelque chose.
Mais quelque part, il n'y a pas aussi un moment, une angoisse des partitions qui s'accumulent sur le piano, de tous ces rôles qui restent à travailler en se disant « Mon Dieu, je préférerais quand même... »
Non, pas d'angoisse, mais il faut s'organiser, ça c'est sûr. Non, après, l'angoisse, c'est de les ranger dans la bibliothèque. Il y a de moins en moins de place, ça, je peux vous le dire.
Surtout dans la volumétrie des appartements parisiens.
Ah bah voilà, puis alors avec les Ricordi qui nous font 2 volumes, là, je vous raconte pas. Il va falloir que je revoie toute ma bibliothèque, là.
Plus les gros livres 10 du Palazzetto Bruzane.
En plus, et c'est pas le même format que les autres, vous voyez, donc...
Dans tout ça, comment garder une place pour l'interprétation de la mélodie ? J'ai l'impression que tous les chanteurs disent la même chose. La mélodie, j'adore ça. Par contre, pour trouver un récital de mélodie, il faut vraiment se lever de bonne heure.
C'est pas ça. C'est vrai que c'est délicat. Après, effectivement, si on a la chance de faire partie d'un label, d'un gros label de disques, lui-même va pouvoir organiser une tournée. Et puis le but, d'ailleurs, sera de vendre les disques. Mais c'est vrai que c'est difficile d'organiser ça. On se dit aussi que ce n'est pas forcément les mêmes agents qui s'occupent de l'opéra qui vont s'occuper aussi du récital. Il y a aussi quelque chose de différent. Moi, c'est vrai que pour le coup, jusqu'à présent, c'est mes pianistes qui m'ont... Parce que je travaille avec différents pianistes qui m'ont trouvé, j'ai envie de vous dire, les récitals. C'est vrai que nous, on ne se voit pas frapper à la porte voilà, des directeurs de théâtre en disant « Bonjour, je veux un récital », c'est un peu difficile. Mais après, voilà, avec le marché de la musique de chambre, ça peut être possible. Les festivals, l'été, ça par contre, on nous le propose beaucoup. Et l'été, je fais beaucoup de musique de chambre. C'est vrai que je pourrais avoir des vacances, mais voilà, quand on me propose un récital de Lieder de Brahms avec Nicolas Anglisch, j'arrive pas à dire non.
On dit pas non. Ouais.
Voilà, un récital de Mélodie de Forêt et même La Bonne Chanson avec un sublime quatuor, Éric Lesage au piano, je ne peux pas dire non. François Verrigui, Philippe Cassard. Donc en fait, voilà, mes vacances sont musicales et amicales parce que voilà, de faire de la musique avec de tels musiciens, ça ne se refuse pas.
À partir de quand dans votre vie est-ce que la mélodie est devenue quelque chose d'important ?
C'est arrivé pas forcément quand j'étudiais au conservatoire, j'avais pas forcément cette curiosité. C'est arrivé en fait quand je suis arrivée à Lyon. Donc voilà, je reviens encore à ce point d'ancrage, la troupe de Lyon. Je dirais la même chose évidemment que Stéphane parce qu'on a eu le même professeur, notre maître Ruben Lifschitz, qui nous a enseigné la mélodie, le récital, mais qui nous a surtout donné du plaisir, la curiosité aussi de découvrir du répertoire, pas forcément faire que des choses qu'on entend toujours, une façon aussi de construire un programme. Est-ce qu'on fait toujours la même période, le même compositeur? Est-ce qu'au contraire, on va s'inspirer des poèmes, hein? Voilà, est-ce que... et puis des choses adaptées, effectivement, à sa voix, donc on lit, on fait des recherches. Enfin, ça a été un travail extraordinaire sur 4 ans. Donc ça m'a énormément, énormément apporté. Il m'a fait écouter aussi des vieux enregistrements de Régine Crespin qui faisait des récitals, qui était une magnifique aussi récitaliste. C'est grâce à elle que j'avais découvert la mélodie Soir de Fauré, sublime. Des chanteuses comme Irma Colassi, qui faisait en live des chansons d'Ève de Fauré. Je me suis dit, mais c'est quoi la chanson d'Ève de Fauré? Non, mais... Et donc, ça m'a ouvert tout un répertoire. Et oui, ça m'a fait aimer ce répertoire. Et quelle chance d'avoir eu un contact avec cette personne. Quelle chance.
Un programme de récital, c'est pas seulement une question musicologique et philologique, quelles tonalités, quelles œuvres à mettre ensemble, comment bien construire sa première et sa seconde partie. Mais j'ai le sentiment que c'est aussi parfois une dramaturgie. Je pense à une célèbre chanteuse américaine qui, dans ses pires soirs de méforme, s'épargnait pendant tout le récital et puis donnait 10 bis, mettait la salle à ses pieds.
Oui, pourquoi pas, ça peut être aussi une façon de faire. Mais en tout cas, construire un récital, moi, je trouve ça important. Alors peut-être après, je vais intellectualiser la chose, mais je trouve que c'est important si en tout cas, il y a une logique. Après, chacun la sienne, évidemment. Mais qu'il y a une logique, je ne sais pas, même par rapport aux langues que l'on va chanter ou aux années de composition. Et puis oui, par exemple, pourquoi pas aux poètes. Moi, comme j'ai adoré la chanson d'Ève de Fauré, je me suis dit, tiens, il faut absolument que je fasse les Mallarmés à côté, que ce soit Debussy, Ravel. Enfin, je voulais vraiment, en tout cas, une cohésion dans le programme. Et puis, après, j'ai aussi beaucoup recherché des programmes avec des instruments obligés. Alors voilà, la clarinette, le violoncelle, l'alto, le violon. Et là, on se rend compte que, voilà, il y a des choses magnifiques au répertoire et donc j'espère que ça va pas s'arrêter.
La capacité à se plier aux contraintes assez rigoureuses de la musique de chambre, est-ce que quelque part ça vous vient de votre passé d'instrumentiste?
Je pense, oui. Et puis j'ai l'impression d'être vraiment une instrumentiste avec eux quand je fais de la musique. On est à l'écoute, on doit rentrer dans le son. Ben voilà, si je chante avec un quatuor à cordes ou si je chante avec une clarinette, voilà, on échange des sons, on fait frotter des sons.
À jeu égal.
Ah ouais, vraiment. Ah bah oui. De toute façon, c'est ça. Et d'ailleurs, quand on pense par exemple au leader de sport pour clarinette, voix et piano, l'instrument virtuose, c'est la clarinette hein, dans l'histoire. C'est pas la voix, pas du tout. Donc, non, c'est ça qui est génial, c'est de pouvoir faire de la musique ensemble, respirer ensemble, arrêter un son ensemble. Enfin, voilà, il y a une communion.
Alors, vous avez évoqué Régine Crespin, on peut peut-être terminer par là. Évidemment, Régine Crespin, pour tout chanteur français, c'est le monument absolu, mais... Quels ont été vos modèles parmi les chanteurs connus et parfois peut-être même moins connus?
Les modèles, alors forcément, j'ai beaucoup regardé les chanteuses qui avaient des rôles et une tessiture à laquelle moi je pouvais m'identifier, ça c'est une évidence. Donc j'ai regardé les parcours de Anne Murray, de Teresa Berganza, parce que je me disais voilà, c'est des mezzo aigus, c'est des voix intermédiaires, des voix légères, alors qu'est-ce qu'elles ont fait, quel est le parcours? Et effectivement, j'ai écouté énormément d'enregistrements, Mozart, Rossini, Handel. J'ai vu qu'ensuite Anne Murray avait pu aborder le rôle de Charlotte, pareil pour Teresa Berganza, Charlotte, Carmen, mais vers quel âge? Enfin, vous voyez, moi ça m'a beaucoup beaucoup intéressé, ça.
C'est quasiment scientifique comme étude.
Non, c'est pas scientifique, mais c'est de se dire que comme elles ont fait des longues carrières, et que, en plus, j'ai eu l'occasion de chanter avec Anne Murray dans Les Noces de Figaro, de Strehler à l'Opéra Bastille en 2010. Et je me dis, elle chante encore, elle fait Marceline et c'est extraordinaire. Voilà, comment elle a géré, comment elle a fait. Et ça, c'est très instructif, c'est sûr. Et puis après, voilà, j'ai écouté plein d'enregistrements. Robert Massard, par exemple, qui est un de mes barytons français aussi, que j'adore. Pour moi, Ludovic Tézier, Stéphane Degout, c'est la lignée de Robert Massard. Ce legato, cette musicalité, cette projection naturelle, une diction parfaite. Enfin, j'ai écouté voilà, des Irma Colassi, des Maria Callas, évidemment, parce que comme tout chanteur, on a au moins un album de Maria Callas à la maison.
Et là, on s'en inspire ou on essaie de ne pas commettre les mêmes erreurs suicidaires?
Alors, les erreurs suicidaires, c'est difficile à dire, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est des chanteurs qui pouvaient tout chanter d'une semaine à l'autre, passer de Rossini à Donizetti, à Wagner, à Verdi. Enfin, en même temps, elle avait à ce moment-là les capacités de le faire. Moi, je trouve ça spectaculaire. Mais il y a aussi des enregistrements, moi, je trouve que sa Traviata, années 50, mais c'est sublimissime. Enfin, même son Elvire, Armida, elle a d'ailleurs chanté le rôle d'Armida, donc je l'ai écoutée aussi. C'est juste parfait quand même. Donc, il y a des choses qui nous font écho, hein, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que j'ai écouté aussi bien les femmes que les hommes. J'ai beaucoup aussi écouté Kirite Kanawa, Schwarzkopf, Ludwig. Alors, Ludwig, évidemment, pour les leaders, la mélodie. Bernarda Fink, que j'aime beaucoup aussi. José Van Damme, les ténors, évidemment, Pavarotti. C'était un de mes dieux. Donc, quand je l'ai vu en vrai à la Bastille.
Vous êtes évanouie dans ses bras.
Ah non, je ne me suis pas mise dans les bras, j'étais dans la salle, mais. Non, et puis d'avoir vu aussi en live des chanteurs comme Martine Dupuis, Michel Lagrange. Enfin, voilà, j'ai toujours été une fan, en fait, je me rends compte de tous ces gens.
Vous avez des autographes?
Ah oui, Régine Crespan en premier d'ailleurs.
C'est vrai?
J'avais 13 ans.
Ah, il y a qui dans votre collection?
Ben, j'ai José Van Damme, Régine Crespan, Valentini Terrani, Raina Kabayanska, Tekanawa. Ah, moi, je faisais la queue à la fin des concerts. Hein. Vous voyez, j'étais une groupie, j'ai 12-13 ans.
Vous avez des autographes de personnes avec qui vous avez été en production?
Ben oui, parce qu'au tout début, j'ai été demander des autographes à Roberto Alagna ou à Nathalie Dessay, puis après, j'ai chanté avec eux, donc ça fait tout drôle quand même. Mais bien sûr, ouais, c'est rigolo, bien sûr.
Vous ferez quelle tête quand un jour, une de vos jeunes collègues vous demandera un autographe?
Je ne sais pas, mais je m'y plierai comme les autres l'ont gentiment fait avec moi.
Merci Karine Day.
Merci.